Bienvenue sur Une semaine, un livre. Je suis Elodie, amoureuse des livres depuis ma jeunesse, je les aime en tant qu'objet, mais j'aime surtout les histoires qui se trouvent à l'intérieur. Sur ce podcast, je vous propose de me retrouver chaque semaine pour un moment de partage littéraire. Vous allez y retrouver mes recommandations, celles de mes invités, des retours de lecture commune ou encore un format journal de lecture. Et si ces recommandations font écho en vous, vous les ajouterez peut-être à votre propre bibliothèque.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est le retour du format interview où je reçois une invitée qui va vous proposer un livre choisi spécialement pour cet épisode. Mon invitée d'aujourd'hui est Elodie Baronne. Bonjour Elodie.
Bonjour.
On est entre Elodie.
Oui, voilà, exactement.
Bienvenue dans le podcast. Je suis ravie de te recevoir pour cet enregistrement. Et ce que les auditeurs ne savent pas encore, c'est que c'est un peu toi aussi qui me reçois, puisqu'on est dans ton café.
Tout à fait.
Donc on est à Plume et Café, à Toulouse, un peu à côté du Capitole. C'est un lieu de rencontre pour les passionnés de livres, puisqu'on peut s'asseoir, boire un café, lire des livres, acheter des livres, puisque tu proposes des livres d'occasion. L'ambiance est cocooning, et quand on y vient, moi je trouve qu'on est chouchouté par toutes les boissons que tu nous proposes, c'est tellement dur de choisir.
Ah oui, les boissons gourmandes et réconfortantes.
C'est parfait pour accompagner la lecture. Pour commencer, la première partie de l'épisode, est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire qui es-tu ?
Tout à fait. Alors, ben, bonjour à tous. Moi, je suis Elodie, j'ai 34 ans. Je suis maman de 3 petites filles et j'ai ouvert Plume et Café le 5 juillet 2022. Donc, ça fait ben, presque 8 mois. Je suis la gérante, je suis seule à travailler ici et je suis très heureuse d'être là pour ce podcast.
Donc, c'est un café littéraire très récent. Et comme c'est un format hybride, café et littérature... Et ouais. Tu as plusieurs casquettes.
Oui, tout
ça
à fait.
Tu t'en sors avec toutes ces casquettes ?
Écoute, oui, pour l'instant, je m'en sors. C'est un apprentissage pour moi aussi parce que je ne viens pas du tout de ce milieu-là à la base. J'ai fait plusieurs choses dans ma vie, mais la dernière en date, c'est que j'étais secrétaire médicale à l'hôpital des enfants. Donc du coup, tout ça, c'est nouveau pour moi, mais franchement, oui, je m'en sors. Ça va, c'est chouette. Et puis j'ai la chance d'avoir des clients qui sont incroyables, donc... Ça aide.
C'est l'avantage de réunir des gens autour de la même passion parce que ça donne envie de se soutenir. Et du coup, est-ce que tu as fait des formations pour arriver à ouvrir ce café ?
Oui, alors j'ai fait une formation de barista. Comment préparer les boissons gourmandes que je sers à mes clients ? Travailler le café, d'où vient le café, son origine, jusqu'à la tasse qu'on a dans la main le matin. Préparer de belles boissons aussi avec le latte art, faire mousser le lait, tout ça, ouais.
Donc j'ai fait une formation. Tu fais ça ?
Oui, j'ai fait une formation de barista, voilà.
D'accord. Ah oui, c'est un vrai changement quand même.
Ah oui, mais ça n'a rien à voir. J'étais dans la santé, le social et je suis maintenant à la tête de mon café et de ma société du coup. Donc rien à voir.
Mais tu prends soin des gens, de leur esprit et de leur estomac.
Voilà, j'ai quand même l'impression qu'il y a un petit lien en fait. Ouais, mais tu as raison.
Mais oui. Est-ce qu'il y a une casquette que tu aimes le moins porter depuis que tu t'es lancée dans cette aventure ?
Effectivement. Forcément, on ne peut pas aimer tout ce que l'on fait dans chaque métier, je pense que c'est le cas. Moi, voilà, la partie que j'aime le moins, on va dire, c'est vraiment tout ce qui est la logistique. C'est vraiment aller faire les courses, tout amener ici avec la voiture, au café, porter les cartons, défaire les cartons, voilà, le rangement du stock. Voilà, c'est vraiment ça qui me...
Ah ouais, c'est même pas la partie...
Ça me barbe.
administrative, fait de gérer sa société, ça te dérange pas ?
En fait, je viens d'une filière administrative.
Eh ben oui.
Donc au final, tout ça me fait pas peur. Les papiers ne me font pas peur, après j'ai de l'aide, forcément. Et je fais pas tout toute seule, j'ai un expert comptable qui est là pour moi et pour m'aider, et heureusement, parce que je ne veux surtout pas faire de bêtises dans cette nouvelle activité. Mais après non, l'administratif ne me rebute pas en fait.
Ah, on pourrait s'attendre à ça, tu sais, quand on passe dans la gestion de sa propre société, l'administratif, c'est souvent ce qui fait le plus.
Ah, mais c'est énorme, hein. C'est un travail énorme, mais moi, voilà, c'est plus
la manutention
qui me... C'est pas du tout mon truc, vraiment pas. Voilà.
D'accord. Et au contraire, est-ce qu'il y a une casquette que tu apprécies particulièrement?
Ah oui, alors il y en a même plusieurs, et heureusement, c'est pourquoi je m'amuse dans mon métier. Là où je m'épanouis, c'est quand je rencontre des clients qui sont lecteurs.
Ouais.
Voilà, là, clairement, je peux parler avec eux de mes lectures et de leurs lectures, je peux en parler pendant 2 heures, mais facilement. Ils sont plusieurs à pouvoir témoigner d'ailleurs que dès qu'on commence à me parler de livres, je peux être très très longue. C'est toujours des débats passionnés en plus, puis entre personnes qui ont la même passion, je trouve ça incroyable, et c'est quelque chose que je n'ai retrouvé qu'ici, parce que avant ça, je n'avais jamais l'occasion de pouvoir parler de ma passion, donc des livres. Ouais. Et là, ici, alors, clairement, je m'en donne à cœur joie parce que je fais ça quasiment toute la journée. C'est trop bien.
Mais du coup, c'est l'occasion. On a parlé un peu du présent, des casquettes que tu portes. On va revenir un peu dans le passé.
Oui.
Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ce projet?
J'ai toujours eu envie, en fait, de travailler dans un métier du livre. Donc ça a toujours été, parce que ça a toujours été ma passion depuis que je suis lectrice. Donc depuis que j'ai 6 ans, je crois, je lis. J'ai toujours un livre à la main. Comme je l'ai dit la dernière fois dans un article de journal qu'on avait fait à mon sujet, je marchais en lisant. Je marchais toujours avec un livre à la main.
Mes parents tu t'es disaient, jamais tu pris vas... de poteau.
Voilà, à chaque fois c'était la question. Mais attention, tu vas te prendre quelque chose. Non. Voilà, en fait, j'ai toujours eu un livre à la main, tout le temps. Aujourd'hui encore, je vais quelque part, j'ai un livre dans mon sac. Même si je sais que je ne vais pas lire, ce n'est pas grave. Il me faut l'objet, il me faut...
Ça te rassure.
Voilà. Je sais pas l'expliquer, mais c'est quelque chose de rassurant. Le livre a toujours fait partie de ma vie et j'ai toujours cherché un métier qui pourrait me permettre de m'épanouir là-dedans, sans jamais trouver. Alors, bibliothécaire, je voulais pas. Libraire, il me manquait quelque chose. Et en fait, un jour, j'ai découvert que ce métier existait, que ce lieu existait, les cafés littéraires, qu'il n'y en avait pas beaucoup à Toulouse. Et du coup, j'ai commencé un petit peu à me renseigner là-dessus. Et je me suis dit, mais hello, mais c'est ça en fait qu'il faut que tu fasses. Il y a le livre, il y a le service, il y a le contact humain, il y a tout ce qu'il faut en fait là-dedans. J'ai peaufiné mon idée. Je suis allée chercher vraiment quelles étaient les valeurs très importantes pour moi. Et à partir de ça, j'ai créé ce lieu.
Donc c'est un lieu totalement à ton image.
Voilà. Donc moi, mon concept Plumes et Café, voilà, c'est réfléchi et c'est pas pour rien que ça c'est arrivé comme ça à Toulouse. C'est que voilà, je voulais absolument un lieu où les gens puissent se sentir d'abord comme à la maison. Donc vraiment, l'idée, c'était d'avoir du mobilier comme à la maison. Si vous avez l'occasion de venir, ou bien alors de regarder sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram, sur mon site internet, vous pourrez voir quelques photos du café, ça vous confirmera que, ici c'est le confort qui prime, avec du beau mobilier. Il y a même un fauteuil suspendu qu'on ne trouve jamais dans les cafés, dans les bars, dans les restaurants. Ça, c'est ma petite touche perso, on va dire, pour que vraiment le client soit à son aise au maximum. Et ensuite, je sers des boissons gourmandes, des pâtisseries, pour le côté réconfortant, chaleureux toujours, voilà. Et parce que pour moi, lire, il faut que ça soit accompagné de tout ça pour que ce soit au max. Et dernier point, mais pas des moindres, le livre d'occasion. Pourquoi d'occasion? Parce que pour moi, un livre, il mérite d'avoir plusieurs vies, pas seulement une. Je récupère en fait des livres de seconde main, ce qui permet aussi de réduire notre empreinte carbone à tous, donc c'est pas négligeable non plus pour moi. Le livre, oui, je veux qu'il ait plusieurs vies, je veux qu'il voyage, je veux que les gens voyagent aussi à travers lui. Et du coup, je présente ici en fait des livres d'occasion pas chers. Donc ils sont à 3€ le poche et 6€ le grand format, partout dans le café. J'ai quand même un petit rayon nouveauté et livres neufs que je fais, mais quand même à prix réduit. Donc je le fais pas au prix du livre neuf, même si c'est du livre neuf, parce que voilà. Pour moi, en fait, mon idée, c'est que j'ai vraiment absolument, passionnément envie que les gens continuent de lire. Et je n'ai pas envie que le prix soit restrictif pour eux. J'ai pas envie que ça les empêche d'acheter un livre et de voyager, parce que pour moi, c'est tellement important le livre que j'ai vraiment envie que tout le monde puisse y accéder.
Eh ben, c'est un très beau concept et tu le disais au début, c'est comme à la maison. Je sais pas si tu te souviens, mais la première fois où je suis venue, j'ai eu du mal à repartir, je voulais rester.
Ouais.
Donc pour moi, c'est objectif accompli.
ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir et effectivement, je le remarque. Et c'est quelque chose qui revient souvent. Les gens me disent souvent, mais je me suis vraiment sentie comme chez moi, j'ai plus du tout envie de repartir.
Mais moi, honnêtement, c'est mieux que chez moi. Hein. Je préférerais... Déjà, il y a plus de choix de livres.
Ah oui, oui.
Les canapés sont hyper confortables, hyper doux. Moi, j'ai envie de les adopter, de les emmener avec moi. Mais bon, je les laisse ici pour que tout le monde en profite.
Ah bah, c'est vraiment mission accomplie pour moi.
Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à l'histoire du café ?
Oui, c'est oui.
Vas-y.
Dans ce concept que j'ai créé, il y avait aussi la volonté de réunir les gens. Il faut savoir que moi, le café, je l'ai ouvert à la suite de du Covid, dont tout le monde a entendu parler, malheureusement, où les gens ont été très isolés pendant cette période-là. Mmh. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu du mal après ça à retrouver le contact, les réunions de personnes, et qui sont restées peut-être un petit peu isolées après ça. Et du coup, pourquoi je parle de ça ? Parce que ici au café, il y a la possibilité aussi de faire des ateliers. Et les ateliers, voilà, c'est aussi pour ça que je les fais. C'est parce qu'ici, c'est aussi un lieu culturel, que je veux culturel en tout cas. Et je veux que les gens puissent s'y réunir autour de passions communes, mais pas que de la lecture, il n'y a pas que ça. Voilà, je fais aussi des ateliers de création, des ateliers de sophrologie, de méditation, autour de la parentalité, du paranormal, de la cartomancie, voilà. Il y a tout un tas d'ateliers qui sont disponibles au café et tout ça dans un esprit de réunion de personnes et d'assemblée, de solidarité, de discussion.
Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puisque une des premières fois où je suis venue, c'était grâce au club de lecture La Vie en Prose, qui est organisé par Fanny aussi.
Oui.
Et justement, si tu souhaitais mettre en avant un atelier en particulier, ce serait lequel ?
Alors, j'en aurais deux. Je peux ?
Ben oui, vas-y, pourquoi choisir ?
Celui qui me tient le plus à cœur, évidemment, c'est La Vie en Prose, justement.
C'est vrai ?
Oui, parce que c'est vraiment un atelier que j'ai créé moi, jusqu'au nom, qui me plaît beaucoup.
Oui, donc, il est super bien.
Voilà. En fait, pourquoi ça m'est cher ? C'est que moi, en tant que lectrice, j'ai longtemps cherché des clubs de lecture sur Toulouse, et je n'en ai jamais trouvé. Alors, il y en a. Je dis pas qu'il y en a pas, il y en a, mais qui me correspondait. Je voulais un club de lecture plutôt moderne, comme moi, un lieu où on puisse discuter de tout type de lecture. Je n'en trouvais pas. Qu'est-ce que je me suis dit ? Je me suis dit, ben, puisque tu n'en trouves pas, mais crée-le ! C'est la meilleure manière de pouvoir y assister, de pouvoir l'apprécier. Donc, je l'ai créé et j'en suis très fière. Donc, chaque mois, nous nous retrouvons, en général, c'est un samedi par mois, de 10h30 à 12h30, autour d'un thème en particulier que l'on choisit ensemble pendant la séance. Et c'est une merveilleuse façon de pouvoir parler de cette passion qu'est le livre avec des passionnés comme nous, mais aussi de découvrir des lectures qu'on n'aurait peut-être jamais pensé à lire ou à acheter, de découvrir divers types de lectures aussi. C'est comme ça que moi, d'ailleurs, je découvre petit à petit, grâce à cet atelier aussi, des genres que je n'aurais jamais lus avant, comme le fantastique, la romance que je ne connaissais pas trop non plus et qui sont aujourd'hui en train de devenir des genres que j'affectionne particulièrement.
D'accord. Bon, ça fait une super transition pour le profil de lectrice, mais tu nous as dit qu'il y avait un deuxième atelier que tu voulais présenter. Alors, quel est ce deuxième atelier ?
Tout à fait. C'est l'atelier de Yves Lignon. C'est la bibliothèque de l'étrange. Donc, chaque mois, on se retrouve un vendredi par mois de 17h à 18h en compagnie de Yves Lignon, qui est un grand conférencier mathématicien qui a créé le laboratoire de parapsychologie de Toulouse, qui est connu de pas mal de personnes d'ailleurs, et il vient nous parler d'un livre autour du paranormal. Donc voilà, il vient, ce monsieur, nous parler de la thématique du livre qui change chaque mois, et il y a à la fin, bien sûr, un temps de questionnement où on peut lui poser tout un tas de questions, de choses qui nous intriguent sur le paranormal, parce que c'est quand même intriguant.
Mais oui, ça suscite toujours beaucoup de questions. Hein.
Voilà, tout à fait.
D'accord. Eh bien, merci pour cette belle présentation.
Avec plaisir.
Donc j'encourage évidemment tous les auditeurs toulousains, et d'ailleurs, à venir découvrir ce café. On va maintenant se concentrer sur Élodie, la lectrice. Mmh. Quel portrait dresserais-tu de toi en tant que lectrice ?
Je suis une boulimique de lecture, ça je crois que tout le monde l'a compris, et ce depuis toujours. Ma vie de lectrice n'a pas toujours été la même. J'ai l'impression que selon ce qu'il se passe dans ma vie, je vais avoir un rythme de lecture différent, un genre de lecture différent aussi. Donc ça va vraiment dépendre de plein de choses en fait. Il va y avoir plein de facteurs déterminants. Mais voilà, la constante c'est que je lis tous les jours. J'ai toujours un livre avec moi. Je suis une lectrice qui va plutôt aimer les thrillers psychologiques, les drames. En fait, j'aime beaucoup me concentrer sur les personnages, moi. Donc je suis une lectrice qui est passionnée de psychologie en plus de ça. Donc plus le personnage et la psychologie du personnage va être décrite, et plus je vais rentrer dans l'histoire parce que j'adore ça en fait. J'adore les personnages très très bien dessinés, très bien décrits.
Avec de multiples facettes éventuellement.
Oui, éventuellement. Ouais. J'aime comprendre. Je suis une femme en général qui aime comprendre les choses. Et ceux qui sont proches de moi le savent particulièrement. Donc voilà, j'aime comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce que le protagoniste va faire cette action? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Qu'est-ce qu'il y a eu dans son enfance pour que... c'est un petit peu lié psycho tout ça. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ce genre-là. J'aime du coup depuis peu aussi le fantastique, la romance. J'aime beaucoup m'identifier au personnage aussi. Donc d'accord. Ça c'est quelque chose qui me plaît. Et après voilà, en tant que femme très sensible, j'aime particulièrement les mots. Ouais, j'aime frissonner en lisant de jolis mots. J'aime les belles phrases. J'aime quand c'est bien écrit, voilà, tout simplement. Ça peut être fluide et des auteurs pas forcément, pas des grands classiques, tout ça. Mais j'aime quand c'est bien écrit, quand les mots me percutent, en fait, voilà. Et quand c'est le cas, je n'annote pas mes livres. Je suis une lectrice qui ne touche pas du tout aux livres parce que je les respecte bien trop et que je pourrais pas du tout y écrire quoi que ce soit. Mais quand ça m'arrive, voilà, qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment touchée dans le passage, je le prends en photo avec mon smartphone. Ouais. C'est vraiment la méthode moderne, quoi. Je le prends en photo avec mon smartphone et j'annote, mais sur la photo. Voilà. D'accord. Et je garde, et c'est tout un dossier d'annotations de livres, de phrases d'accord. que j'ai aimées. Voilà. Et j'aime bien le garder, le relire de temps en temps.
D'accord. Tu as dit que un de tes genres favoris, c'était les thrillers psychologiques. Mm-hmm. Est-ce que tu aurais un auteur à nous recommander dans ce genre?
Alors, j'aime Harlan Coben.
Ouais.
Ça va plus être du thriller et j'aime bien la psychologie de ces personnages aussi. Après, non, je m'attache pas forcément à un auteur en particulier. C'est vraiment les histoires, moi, qui vont me permettre de m'attacher à un livre. Après, j'ai des auteurs favoris quand même, hein, mais ça sera pas forcément dans le thriller. Voilà.
Ouais, je vois. En fait, t'as un peu cette capacité à dissocier l'auteur du livre et de l'histoire que t'es en train de lire.
Complètement.
Tu peux lire une histoire, être à fond dedans, mais rien avoir à foutre de l'auteur.
Exactement.
D'accord.
C'est pas bien. C'est pas bien.
Mais je sais pas si c'est pas bien.
Non, alors je me renseigne toujours par contre sur l'auteur parce que j'aime beaucoup lire quand même. Qui il est, d'où il vient aussi, parce que souvent les auteurs, ils n'ont pas toujours été auteurs. C'est souvent des reconversions professionnelles, et ça, j'aime bien pouvoir voir pourquoi l'auteur en est arrivé là. Mais effectivement, j'arrive à complètement dissocier et à me plonger d'abord dans l'histoire, et ensuite dans l'histoire de l'auteur. C'est souvent comme ça que je fonctionne.
Voilà. D'accord. Mais je t'avoue que je pense que ça, c'est un gros point qu'on a en commun, en plus du thriller, parce que c'est un de mes genres favoris. Mmh. Et moi, j'arrive à dissocier l'auteur ou l'autrice de l'histoire que je lis. Je suis à fond dans l'histoire, et comme toi, c'est plutôt après où je vais aller vérifier l'auteur d'où il vient, s'il y a quelque chose dans son histoire qui pourrait expliquer pourquoi il a écrit ce livre-là, quelque chose de marquant ou pas. Mais c'est sur le moment, quand je lis, qu'il a écrit, ça ne m'intéresse pas. D'abord, c'est l'histoire.
Exactement. Pareil que moi. C'est ça.
Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose pour compléter ton profil de lectrice?
Je peux peut-être parler des auteurs que j'affectionne.
Oui.
Plus. Oui. Il y a Mélissa Dacosta, que j'aime beaucoup.
Ouais.
Beaucoup, beaucoup. Parce que c'est une nouvelle autrice, on peut dire. Elle n'a pas écrit encore beaucoup de livres. Je crois que son premier livre, c'était celui de 2019. Et j'aime beaucoup parce que j'aime la manière dont justement elle décrit les personnages. Et j'aime aussi la femme parce que je la trouve très abordable déjà. Elle a toujours répondu à mes petits messages ou des fois sur Instagram. Bon, ben quand moi je fais mes chroniques littéraires, je tague toujours l'auteur et à chaque fois elle répond. Elle m'a même dit qu'elle passerait peut-être un jour à Plumes et Café si elle vient à Toulouse, parce qu'elle n'est pas de Toulouse. Voilà, Virginie Grimaldi, j'aime beaucoup aussi l'esprit de ses livres, en fait. Je trouve que c'est très feel-good, c'est léger, ça se lit bien, c'est des problématiques qu'on peut avoir vécues tous, plus ou moins dans sa vie, et en même temps, elle a un trait d'humour que j'aime beaucoup. Éric Emmanuel Schmitt aussi, je l'aime beaucoup, bon, pour d'autres raisons, bien sûr, mais j'adore sa manière d'écrire et de nous expliquer plein de choses. Par exemple, moi, le livre « La vengeance du pardon », c'est un livre qui m'a marqué vraiment parce que c'est justement sur le pardon et que c'est un livre qui est pas si facile à aborder mais que j'ai beaucoup aimé parce que j'aime la vision de l'auteur aussi.
Eh bien, merci pour ce profil de lectrice. Il est maintenant temps de découvrir le livre que tu as sélectionné comme recommandation pour cet épisode. Quel est-il ?
Eh bien justement, un livre de Melissa D'Acosta.
D'accord.
S'appelle « Tout le bleu du ciel ». Donc c'est son premier roman, écrit en 2019. C'est l'histoire d'Émile, un jeune homme de 26 ans, je crois, enfin une vingtaine d'années en tout cas, qui apprend qu'il est atteint d'un Alzheimer précoce et qu'il va y laisser sa vie, malheureusement. Que ça va être dégénératif et qu'il lui reste que peu de jours, mois à vivre. Et il décide en fait de ne pas passer la fin de sa vie à l'hôpital, de ne pas se faire plaindre tous les jours de sa famille, de ses amis. Il voit la fin de sa vie d'une toute autre manière et il décide d'acheter un van aménagé et de partir sur les routes. Voilà. Et sa vie s'arrêtera quand elle s'arrêtera, mais en tout cas, les derniers instants, il les aura passés sur la route à faire des choses qu'il n'a jamais faites, à faire des rencontres qu'il n'aurait jamais pensé faire avant ça. Par contre, il ne veut pas partir seul. Donc il poste sur un site une petite annonce en expliquant clairement son état, voilà, en disant voilà, je m'appelle Émile, et je vais partir avec un van que je viens d'acheter. Je risque de ne pas vivre très longtemps malheureusement, mais en tout cas je cherche quelqu'un qui est prêt à partager cette expérience avec moi. Il s'attendait à n'avoir aucune réponse, et en fait il y a une jeune fille qui lui répond, Joanne, qu'il retrouve du coup quelques jours après pour ce fameux périple. Donc c'est une jeune femme avec un grand chapeau noir, qui ne parle quasiment pas, qui a l'air très discrète, très introvertie, qui a l'air d'avoir souffert en tout cas. Et ils partent comme ça tous les deux. Ce sont deux inconnus, ils ne se connaissent pas du tout, ils ne se sont jamais parlé, et ils partagent un quotidien finalement. Et ça va être merveilleux parce que on va assister au développement de cette relation entre deux. On va assister à des rencontres extraordinaires et très émouvantes. En plus, tout ça se passe dans la région. Donc ce sont des petites villes qu'on peut très bien aller visiter suite à la lecture de ce livre, avec des petits villages magnifiques et très très bien décrits par l'auteur. Et on va aussi comprendre pourquoi Joanne, cette jeune fille, est si introvertie et ce qu'elle a vécu dans sa vie pour en venir à avoir accepté cette petite annonce.
D'accord.
Voilà, j'en dis pas plus, mais moi ça m'a bouleversée, transportée, et j'ai adoré voyager avec eux du coup dans le van.
Donc c'est un peu une histoire d'aventure au final, ils partent à deux dans un van, donc c'est un road trip. Tu disais que c'était dans la région, donc ils restent en France ?
Oui, ils restent en France, c'est d'accord. Vraiment dans la région, hein. C'est les petits villages sont vraiment pas loin.
Donc c'est vraiment du slow trip quoi, enfin...
Oui. Oui. Ah oui, ils vont pas faire un grand...
C'est pas toute l'Europe en van.
Non, justement. C'est les petits villages qu'on peut aller nous-mêmes visiter et qui sont souvent pas vraiment très connus et pourtant qui valent le détour.
Mais au final, ils vont dans ces villages à chaque fois sans but particulier autre que de rencontrer les gens du village ?
Ils y vont dans des buts, oui, ils traversent en fait. Ils sont là vraiment pour voir du beau, voilà. Ouais. Pour voir de belles choses, des beaux villages. Et puis finalement, en s'y arrêtant pour manger quelque part ou pour ou quand ils sont juste devant le van, et ben ils font des rencontres. Ils font des rencontres avec les villageois, les gens qui habitent là.
Ils ont pas un programme d'activité en mode on va aller en tel endroit faire de la spéléologie, dans tel endroit du saut à l'élastique.
Et non, justement, ils vivent au jour le jour parce qu'il y a aussi la maladie d'Émile qui est là, hein, comme une épée de Damoclès, et du coup, ils vivent vraiment au jour le jour et au fil des rencontres et des petits villages.
D'accord. Et ben, ça a l'air d'être une très belle histoire. C'est vrai que je l'ai beaucoup vu passer ce livre sur les réseaux sociaux. Comme je suis plus thriller, je m'y étais pas trop intéressée. Ouais. Mais là, ça donne envie.
Ah non, c'est pas du tout un thriller, non. Ça, c'est sûr.
Et du coup, tu disais dans ta présentation en tant que lectrice que tu aimes bien t'identifier au personnage. Là, est-ce qu'il y a un personnage auquel tu t'es identifiée ?
Je m'identifie très souvent au personnage. Je m'identifie jamais, par contre, à 100% au personnage.
Oui.
Donc du coup, oui, il y a eu des traits de Joanne qui m'ont beaucoup fait penser à moi. Et puis des traits d'Émile aussi, oui, les deux personnages, on s'identifie forcément. Et puis, ce livre soulève la question de, moi, si j'étais dans cette situation, qu'est-ce que je voudrais pour mes derniers instants ? Qu'est-ce que je choisirais ? Et puis finalement, c'est une belle, belle perspective et je crois qu'il a fait le bon choix, en fait.
En tout cas, le bon choix pour lui, apparemment.
Oui, voilà.
D'accord. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose pour donner envie aux auditeurs d'aller lire le livre ?
J'aimerais en dire plus, mais je ne veux pas spoiler, moi. Ah oui. Il y a toujours... Il y a toujours ça, même quand je fais mes chroniques littéraires, il y a toujours cette partie de moi où j'ai envie de dire plein de choses à propos du livre, mais d'un autre côté, je me dis, mais non, ne le dis pas, parce que sinon après les gens, ils vont être spoilés, ils vont plus avoir envie de le lire. En tout cas, ce que je peux dire, oui, c'est que y a un plot twist, je sais pas si je peux dire ça comme ça, si je peux l'expliquer.
Je peux te poser une question qui pourrait t'aider.
Oui.
Sans nous dévoiler la fin,
oui.
Moi j'aime bien poser cette question de savoir, quand t'as lu la fin, comment tu t'es sentie ?
Terriblement triste.
C'est vrai ?
Oui.
T'avais pas envie de quitter le livre ?
Ah non.
C'était dans ce sens-là ? Non, c'était pas une tristesse comme
c'était
ça ?
Pas, non, c'était pas ce genre de tristesse. Moi, j'aurais continué à lire encore plein d'aventures d'Émile et Joanne, mais forcément, la fin, on la connaît.
Oui, oui, parce qu'on sait
puisque
dès le début.
Puisqu'on sait dès le début. Voilà, on sait dès le début que Émile va mourir. On ne sait pas vraiment dans quelles circonstances, mais déjà, la fin, on la connaît, donc la fin est forcément triste. Parce que Émile, ben, décède, forcément. Mais en même temps, j'ai quitté le livre en étant pleine d'espoir, parce qu'il a laissé plein d'espoir, en fait, à Joanne, qui, elle, va continuer sa vie, forcément. Elle aura partagé un petit bout de vie avec Émile, qu'elle ne connaissait pas et qui, au fur et à mesure, va devenir un véritable ami. Et en fait, il lui aura transmis tout un tas de belles choses et tout un tas de beaux souvenirs et de traits de sa personnalité qui resteront en elle, je pense, pendant... encore très longtemps. Donc moi, j'étais un petit peu comme ça à la fin aussi. J'étais triste et en même temps pleine d'espoir et à me dire, mais profite, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à vivre. Et puis moi aussi, j'ai cet esprit aventurier qui fait que la van life, eh ben, c'est vraiment quelque chose qui me dit aussi et qui, à un moment de ma vie, m'a vraiment tentée aussi. Donc oui, je me suis identifiée et oui, j'étais triste mais heureuse à la fin. C'est bizarre de dire ça comme ça, mais... Non, lisez-le, en tout cas, il est trop chouette.
Je pense que ça relate bien. Ouais, moi j'aime bien cette question parce que ça permet de savoir quel est le souvenir que laisse le livre sur le lecteur.
Oui.
Au-delà de juste l'intrigue et les personnages, quel souvenir ça laisse quand on referme le livre.
Et ça, c'est super. C'est super important en plus. Ouais, c'est super important en plus parce que je trouve que plus on lit de livres justement et plus on garde de choses du livre.
C'est vrai.
Et c'est en ça que je dis souvent qu'on est très riches, nous les lecteurs, parce qu'en fait on a tout un tas d'histoires qui nous ont marquées, qui vont nous accompagner dans le reste de notre vie. Et puis il y a plein de moments, moi dans ma vie, je me dis, ah ben tiens, je repense à ce moment du livre, ah ben tiens, je pense à ce personnage qui aurait fait ça. Et du coup, c'est une véritable richesse. Et c'est vrai que c'est une très bonne question pour ça, parce que une fois qu'on a fermé le livre, c'est pas forcément la fin, en fait.
C'est ça. Et oui.
Voilà.
Oui, on a cette chance en tant que lecteur d'avoir en fait plusieurs vies. On a la nôtre, toutes les leçons qu'on apprend dans notre vie, et puis toutes celles qu'on va lire qui nous donnent envie de potentiellement changer notre vie ou qui nous fait juste des petits tilts de temps en temps.
Je crois que c'est pour ça qu'on vit.
Oui.
En vérité. Oui. Ouais. Je crois que
pour
c'est un trait qu'on a
de
qu'on
la
a
vie
en commun.
Quelqu'un d'autre.
Oui. Oui, c'est vrai. Et pour vivre des choses qu'on n'aurait peut-être pas vécues dans
c'est
notre
vrai,
vie.
C'est vrai. Mais en sécurité, parce qu'il faut avouer que quand on lit, on est dans le canapé, là, on est en sécurité.
Confort.
C'est ça. Eh bien, merci de cette recommandation, cette belle recommandation.
Avec plaisir.
On va maintenant passer à la dernière partie de cet échange, avec deux dernières questions que j'aime bien poser aux nouvelles voix du podcast. D'abord, la plus simple, c'est-à-dire les livres que tu lis en ce moment.
En ce moment, je suis en train de lire The Perfect Match de Lila Mars. C'est une dystopie qui m'intrigue beaucoup. Voilà, donc je suis aussi capable de lire ce genre de livre. C'est très éclectique en fait. C'est une histoire qui se passe en 2050, je crois. 2050, ouais, dans ces années-là. C'est une dystopie, donc ce n'est pas notre réalité. Ce n'est pas notre société, mais c'est quelque chose qui, en fait, pourrait très bien arriver. Tout simplement, voilà, l'histoire, c'est que tout un chacun, arrivé à la majorité, des tests sont effectués pour avoir notre perfect match. Donc, c'est-à-dire qu'à l'âge de 18 ans, des tests sont effectués pour savoir à quel pourcentage nous...
De compatibilité
amoureuse, voilà, et de vie. On va rencontrer, en fait, son match, tout simplement, on va rencontrer une personne qui est compatible avec nous à 50, 60, 70, 80%, 90%. Et en fait, là, on suit donc deux personnages qui sont compatibles à 98,8%. Donc, ultra compatibles.
C'est clair.
Sauf que, ce qui se passe, c'est que ben la fille qui est compatible avec le mec à ce pourcentage-là, ben le mec, c'est le frère de son actuel conjoint.
Wow.
Voilà. Donc en fait, elle est amoureuse d'un garçon avec qui elle est compatible à, je crois, 30% ou quelque chose comme ça. Donc ça va pas du tout. En dessous de 50%, en fait, ils peuvent pas se marier. Ils ont pas le droit.
Ils ont pas le droit.
Ils ont pas le droit.
Ah oui.
Donc voilà, il faut absolument qu'ils se mettent en couple avec une personne avec qui ils ont un gros pourcentage et ils n'ont pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre, en fait.
Pour éviter les divorces au maximum.
Exactement. En fait, on est dans une société où il faut éviter les divorces, les disputes, les séparations et il faut que les enfants puissent grandir tout au long de leur vie dans une famille qui ne se séparera pas, qui ne se disloquera pas, en fait.
Ah ouais.
Voilà le pourquoi de ces tests. Donc d'un côté, on se dit, en tant que lecteur, mais en fait, c'est super chouette, parce qu'au lieu de tergiverser partout,
ouais,
et de pas savoir
t'attends
où est
test.
Mon homme parfait, où est l'homme qui est compatible avec moi, et ben là, ils sont servis sur un plateau. Tout d'un coup, on est compatible avec une personne, et on a juste à se marier avec, et tout ira bien.
Tu te poses
entre
plus de
guillemets.
Questions.
On se pose plus de questions.
Il n'y a plus de doute.
Exactement. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que c'est restrictif ? Parce qu'au final,
ah,
on n'a pas de choix.
Tu fais plus d'expérience, plus
non.
de déception pour
non.
te construire, etc.
Non, c'est ça. Tout à fait. En fait, tout est trop servi sur un plateau, justement. Si on était amoureuse d'une autre personne avec qui on n'est pas compatible, alors on doit absolument la quitter sous peine de, d'amende, d'emprisonnement. Voilà.
Ah ouais. Donc
oui,
là,
oui, ça rigole pas.
Elle est amoureuse de quelqu'un avant ses 18 ans.
Tout à fait.
Elle a atteint les 18 ans, elle a fait le test.
Oui.
Et elle se rend compte que c'est le frère de la personne avec laquelle elle est. Donc elle est tombée un peu à côté, hein. Elle aurait dû mieux viser.
Un tout petit peu à côté. Franchement, elle était pas loin.
Mais oui. Fallait viser un peu mieux.
Mais oui, tout à fait. Donc c'est son frère. Qu'elle ne supporte pas, en plus, à la base.
Oui,
donc,
un ennemi tout l'over.
Un ennemi tout l'over. Et
dans les livres et dans la vie.
Forcée. Voilà, c'est ça.
La deuxième question que j'aime bien poser, c'est quelle est ta plus grande source de recommandations littéraires ? Il faut imaginer, t'es en panne de lecture.
Ouais.
Tu veux sortir
ça
de cette
jamais.
Panne. C'est vrai ?
Jamais.
C'est pour ça que j'ai dit imaginer. Il faut imaginer une panne de lecture.
D'accord.
Tu sais plus quoi lire, t'arrives
oui.
pas à te décider, impossible de prendre un objet livre dans ta main.
Ouais.
Du coup, tu laisses celui que t'as en cours traîner, parce que tu sais pas quoi lire après.
Oui.
Vers qui tu te tournes pour sortir de là ?
Alors, j'aurais deux réponses. La première, Plume et Café, atelier
ouais.
de lecture, la vie en prose.
Oui, d'accord. Oui, c'est pas faux.
Parce que justement, ce groupe est aussi là pour ça. Quand on n'a pas trop d'idées, ben justement d'en discuter avec d'autres personnes qui ont plein d'idées à notre place et qui ont lu plein de choses différentes de ce qu'on a l'habitude de lire, ben ça peut justement annihiler la panne de lecture. Voilà, vraiment, on peut se retrouver avec plein d'idées finalement en sortant de là. Et sinon, moi je trouve qu'aujourd'hui, TikTok est une source intarissable d'idées lecture. Alors, je vais m'expliquer. Pas passer pour, voilà, une personne totalement superficielle.
Non, il faut savoir que quand je pose cette question, ce qui ressort le plus, c'est les réseaux sociaux.
C'est vrai ?
Oui, donc...
Alors justement, voilà,
rassure
j'allais...
Rassure-toi.
Ben voilà, ça me rassure. Ça m'encourage en plus parce que j'allais justement dire que je crois qu'on s'en rend pas bien compte, mais les gens pensent beaucoup que les jeunes ne lisent plus.
Oui.
C'est une idée qui revient tout le temps, notamment ici au café, des clients qui me disent ça, mais les jeunes ne lisent plus, mais les jeunes ne lisent plus. Ben figurez-vous que les jeunes lisent énormément, et grâce notamment aux réseaux sociaux et à TikTok. Donc il y a une partie de TikTok qui s'appelle le BookTok. Et quand on est sur ce BookTok-là, on est face à des jeunes personnes, souvent même très jeunes, hein, entre 16 et je dirais 30 ans. Hein. Il n'y a pas beaucoup de personnes très très âgées sur ce réseau, ça c'est sûr. Mais il y a Bookstagram aussi qui est pareil, donc c'est la version livre d'Instagram, où là, il y a énormément aussi de recommandations lecture. Et justement, grâce à ces réseaux sociaux qui laissent la porte ouverte à des passionnés de lecture, ben c'est en train vraiment de créer une sacrée communauté de passionnés de lecture. Les jeunes ont du coup beaucoup moins honte de lire aussi.
C'est vrai.
Parce que moi, par exemple, pour parler de mon expérience personnelle, quand j'étais adolescente, je n'osais pas dire que j'adorais lire, par exemple.
Ah oui.
Et oui, parce que... Ben, la lecture, c'était has-been, parce que la lecture, c'était pour les vieux, parce que ben j'étais pas fun, parce que je lis, parce que j'étais trop sérieuse. Alors, quand on me connaît, je suis très fun, je suis très drôle, je suis très vive, je suis pas quelqu'un qui reste à rien faire toute la journée. Au contraire, je suis très dynamique et pourtant j'aime lire, et ça n'a rien à voir en fait. Et aujourd'hui, les jeunes n'ont plus honte de dire qu'ils lisent.
C'est vrai.
Parce que justement, il y a ce genre de communauté, Instagram et TikTok. Je trouve que c'est un excellent moyen aussi de trouver sa prochaine lecture, parce qu'il y a une grande diversité sur ces réseaux.
trouve que c'est bien. On a déjà parlé sur le podcast de Bookstagram, mais TikTok, pas beaucoup. Mm-hmm. C'est vrai que moi, j'y suis pas, parce que je pense BookTok et TikTok, c'est très orienté jeune.
Je te confirme que je ne fais absolument pas le buzz sur TikTok, mais vraiment, et que effectivement, je pense que le buzz est vraiment réservé aux personnes qui sont très jeunes sur TikTok, sur BookTok, mais c'est trop bien, justement. Il faut justement diversifier, il faut qu'il y ait des gens... Je pense.
Oui, non, mais ça, je suis d'accord. La diversification, je suis d'accord. Moi, TikTok, genre, je l'avais téléchargé une fois pendant le premier confinement.
Ouais. Oui, ça a explosé pendant
ouais. Et quand on est sorti du confinement, je passais autant de temps sur TikTok que pendant le confinement. Je me suis dit, objet de malheur.
Par contre, c'est vrai.
C'est chronophage à mort. Oui. Mais ouais. Alors, il y a la partie chronophage, mais c'est surtout de rester immobile pour lire, ça me plaît. De rester immobile pour les réseaux sociaux, ça me plaît un moment, mais dès que ça dépasse un certain temps, j'ai de la culpabilité après. Et TikTok, systématiquement, quand je suis dessus, ça finit en culpabilité. Instagram, il y a toujours un moment où j'arrive à me dire, ok, là, ça fait trop longtemps, je passe à autre chose. Mais TikTok,
Mais je suis d'accord avec toi, TikTok, oui.
Moi, du coup, juste pour cette culpabilité que j'ai après, que je n'aime pas du tout, et que je me dis, j'ai perdu trop de temps, et je cours derrière le temps ensuite... Je préfère ne pas trop m'y aventurer.
Ah oui. Ouais, mais je comprends. Je comprends parce qu'effectivement, c'est très chronophage, ça, il faut dire la vérité. Et TikTok, oui, quand on sait quand on y va, voilà. On ne sait pas quand on en repart.
C'est ça. Merci Élodie d'avoir consacré du temps à cet échange. J'ai passé un très agréable moment et je suis ravie de t'avoir plus connue autour de la lecture.
Eh oui.
Et puis, on se retrouve très bientôt dans le café.
Oui, merci beaucoup à toi de m'avoir en tout cas consacré cet épisode et... Je suis très contente de l'expérience et moi aussi, ça m'a fait plaisir d'en parler avec toi.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et j'espère que vous l'avez apprécié. D'ailleurs, si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à lui laisser une note sur Spotify ou à le commenter et à le noter sur Apple Podcasts et surtout à le partager autour de vous. C'est vraiment le meilleur moyen pour le podcast de gagner en visibilité. Vous trouverez dans les notes de l'épisode tous les éléments qui le concernent, le livre dont on a parlé, où retrouver mes invités et également les différents comptes réseaux sociaux du podcast. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, de bonnes lectures et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.